vous plantez une petite graine et hop, ça vous pousse. Non, mais c'est vrai, les tomates, c'est minuscule, c'est de l'ordre du millimètre. Et ça vous fait des plantes énormes avec des fruits savoureux.
À Montauban, un petit coin de nature au cœur du quartier des Chaumes, ça vous parle? Alors, dépassez la médiathèque, croisez le centre social de la Comète et continuez jusqu'à arriver devant un grand portail vert. C'est là que sont cachés les jardins familiaux du Grand Montauban. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui, au-delà du portail. Nous allons croiser plusieurs personnes au cours de ce reportage, mais vous entendrez surtout trois voix. La mienne, c'est plutôt évident, et puis deux autres voix qui m'ont accompagnée durant toute la matinée. Ce sont celles de Gaëlle Ravert, responsable des jardins familiaux, et de Monique Verdier. Une jardinière qui travaille sa parcelle depuis 8 ans et qui en parle avec des étoiles dans les yeux. Allez, on passe le portail.
Alors, je m'appelle Gaëlle Ravert, je suis la responsable des jardins familiaux du Grand Montauban. Et en fait, je fais partie du service des centres sociaux, car les jardins familiaux sont rattachés au service des centres sociaux. Et je travaille donc pour le Grand Montauban depuis 2010. Les jardins familiaux, eux, ils existent par contre depuis 2007. Ils ont été mis en place lors de la rénovation urbaine du quartier de la médiathèque. Et ils ont été mis en place avec un petit groupe de personnes qui étaient motivées pour participer à l'élaboration du projet avec la collectivité. Quand ils ont vu le jour en 2007, ces personnes-là ont pu avoir une parcelle aux jardins familiaux. Puis d'autres familles ont fait des demandes et depuis, ces jardins familiaux tournent chaque année.
C'est quoi la vocation, l'esprit, la philosophie des jardins familiaux ?
Alors, ces jardins familiaux, c'est vraiment plusieurs choses. C'est tout d'abord des parcelles mises à disposition pour des familles qui en font la demande. Et en général, c'est d'abord pour un souci alimentaire. C'est-à-dire que les gens viennent là pour planter leurs légumes et puis avoir ses propres légumes sans avoir à en acheter. Après, il y a aussi toutes les personnes qui viennent, bien sûr parce qu'elles aiment le jardinage, elles aiment la nature, mais aussi elles aiment échanger, discuter. Donc tout le lien social est important aussi dans ces jardins familiaux. Et nous, on est là pour fédérer un petit peu du monde autour d'ateliers, d'activités et de faire en sorte que les gens, justement, échangent entre eux. Ils le font naturellement les uns vers les autres, mais c'est juste que ça permet de rassembler peut-être plusieurs jardiniers qui sont à l'extrémité des jardins et qui n'ont pas l'occasion forcément de discuter et de se voir. Et dans le cadre d'un atelier, tout le monde peut échanger et discuter pour justement parler des gestes respectueux de l'environnement. Parce que je rappelle que ces jardins sont bio, on n'utilise pas de produits chimiques en tout cas. Voilà.
38 parcelles de terre louées par des jardiniers et des jardinières. Sur l'une d'entre elles, nous rencontrons M. Krenkrich qui nous offre un tour de son jardin potager.
Gladio.
Il y a des rosiers.
Des rosiers des tout rosiers. Autour, très bien, qui encerclent le jardin.
Concombre, pommes de terre, haricots, choux, tomates, finies, haricots finies,
salade finie aussi, il n'y a plus la saison.
Oui, compost.
Le compost.
Oui, sur chaque parcelle, il y a un composteur. Oui. Et chaque jardinier, du coup, quand ses récoltes sont terminées, peut mettre du coup ses déchets verts dans son composteur.
Compost.
Voilà, ça se composte. Et après, vous en faites quoi? Vous le remettez dans la terre. Ça nourrit la terre. Et après, sur chaque parcelle, il y a un cabanon et pour stocker les outils.
D'accord, chaque jardinier a ses outils.
Voilà, ses outils. Il peut stocker des graines. Voilà. Il y a un récupérateur d'eau de pluie aussi qui récupère l'eau qui tombe sur le toit. Voilà. Et après, ils ont quand même un robinet sur chaque parcelle pour l'été, quand il n'y a pas d'eau de pluie, ils peuvent arroser. Mais ce n'est pas de l'eau potable, c'est l'eau d'un puits. Hein, c'est
le récupérateur d'eau de pluie pour arroser le jardin. Qu'est-ce qu'on a là?
Haricots.
Les haricots?
Haricots noyés.
Qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer d'autre?
Compost.
Voilà, il y a du compost, du compost partout, c'est bien.
Ah, beaucoup de l'eau.
Oui, parce que quand il pleut, c'est vrai que le sol, comme il est un peu argileux, c'est vrai que des fois, C'est un peu compliqué, ça devient vite un petit peu... Enfin, il peut y avoir des flaques. Et le fait d'amender le sol, d'apporter du compost, de la paille, de pailler le sol, bah, voilà, ça aide un peu le sol. Ça l'allège, ça aère, et devient moins lourd. Et d'année en année, plus on le travaille de cette façon, et plus le sol devient meilleur. En plus, le paillage, ça favorise aussi la venue des vers de terre, de certains insectes qui sont bah, les alliés du jardinier. Hein, donc,
Mais c'est vrai
tout,
que
mais ouais. après, voilà, chaque... c'est vrai que vous allez le voir en visitant chaque jardin, vous allez voir que chaque jardin est différent. En fait.
Chacun ses méthodes de jardinage et la façon dont il
Mais on échange et les choses changent. C'est-à-dire que chaque individu prend un petit peu des autres. Et du coup, ça, je pense que ça va finir par faire une espèce de cohésion un petit peu. Puis on se donne aussi des choses que. Les autres ne connaissent pas ou bon on s'explique aussi des façons de des petits trucs pour faire
il y a un partage des tuyaux de jardinage
Mais moi au niveau de mon tuyau par exemple moi je
on peut aller voir
on peut peut-être aller le voir
merci beaucoup
allez, bonne journée bon,
merci.
Du coup, je ne vous ai pas présenté, mais donc là, c'était Monsieur Crane Creek. Et là, c'est Madame Verdier. Je dis Madame Verdier, mais c'est Monique. Et après, donc, il y a Sarah qui est en service civique avec moi et qui va m'accompagner pendant 8 mois.
Le jardin de Monique.
Voilà. Alors, moi, je fais bio, évidemment. Je ne rajoute rien qui vienne de l'extérieur, qui soit des produits... autre que bio, mais bon, de toute façon, ça a toujours été comme ça.
Est-ce que vous pouvez vraiment me montrer, décrivez-moi ce qu'on a là.
Alors là, nous avons. Alors là, j'ai fait 2 lignes de haricots verts. Voilà. Donc normalement, les jardins sont entourés de haies, de petits arbres fruitiers et d'arbres à fleurs.
D'accord.
Pour faire venir justement les petits animaux, les oiseaux, éventuellement tout un tas de petites bestioles qui vont amener justement la diversité, qui vont manger les prédateurs, qui vont être mangés, enfin voilà, que le cycle de la vie soit le plus important possible. Et donc là, il y a les groseilliers, les cassissiers.
Cette philosophie du jardinage bio, respectueux des cycles naturels, attentif à la complémentarité entre les variétés, les espèces, on la retrouve sur l'ensemble des jardins familiaux. Et la collectivité travaille à nourrir cette envie en organisant régulièrement des ateliers thématiques. Le prochain atelier Jardiner bien, jardiner bio portera d'ailleurs sur les plantes sauvages comestibles.
Certaines adventices, on peut les manger. Par exemple, le pourpier.
C'est ce que j'allais demander justement. Il y en a certaines qui sont comestibles, qui ne sont pas.
Je crois qu'il y en a par là, du pourpier. Il est reparti.
C'est vrai, il y a la bourrache. Moi, je vois de la bourrache. Avec la fleur bleue.
Ben voilà, le pourpier. Voilà, alors, moi, j'ai bien paillé les haricots.
Les fraisiers.
Vous voyez, les haricots, ils sont bien paillés. Et le pourpier, c'est ça.
Et voilà, ça, en fait, il y a un atelier justement sur le jeudi 8 octobre, apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles. Et puis avec un atelier cuisine, en fait, c'est un atelier sur la journée.
D'accord.
Et on part à Caylus, on se balade, on fait une récolte de plantes sauvages comestibles. Et après, on rentre, on les cuisine tous ensemble et on les mange. Ouais.
La dernière fois, on avait ramassé, c'était en juin. Donc après, on ne fait pas ça. Enfin, faites pas ça toujours à la même période, du coup on a des nouvelles choses à apprendre. Et on avait fait du sirop de sureau, on avait ramassé des fleurs, on avait fait des petits gâteaux aux fleurs de sureau. Et franchement, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, quoi. C'est juste l'envie de faire des choses aussi soi-même, naturelles, et puis on a un résultat goûteux. Et reconnaissable, quoi, vraiment. C'est
surtout qu'on n'utilise pas de produits chimiques.
Non,
de A à Z, c'est vraiment naturel, quoi. C'est même encore mieux que le bio, c'est naturel. Donc,
c'est professionnel, c'est pas un survol comme ça. Hein. C'est vraiment une vraie étude avec des applications concrètes. C'est ce qui est intéressant.
Une partie théorique et une partie pratique.
Voilà. Il y a une partie pratique aussi à chaque fois.
Oui, il y a les jardins,
Et on voit.
Voilà.
Et pour les ateliers, sur la reconnaissance de son type de sol, je demandais aux personnes d'amener un bout de son sol. Et puis on regardait le type de sol que chacun avait. On faisait un test pH, on regardait, puis après, voilà, on parlait de comment l'amender au mieux pour améliorer son sol. Quoi. Voilà. Et pareil pour les associations de culture. Après, on venait sur les jardins pour montrer les différentes associations qui existent.
Oui, parce qu'il y a des plantes qui ne sèment pas entre elles.
Aussi, parce qu'il y a celles qui sèment. Et qui
bloquent le processus de vie des autres. Alors qu'ils se font la gueule, carrément. Par exemple, le fenouil n'aime pas... Alors lui, c'est un solitaire et il n'aime pas avoir d'autres plantes à côté.
Il n'aime personne. Lui,
c'est pour ça, je le mets à côté de l'allée, là. Et alors, bon, là, ça va, mais alors... Non, mais c'est très marrant. On a l'impression d'être des êtres uniques à réfléchir, à penser, à avoir un caractère. Mais quand on regarde les animaux, ils ont tous leur caractère aussi. Et les plantes, je me demande si c'est pas la même chose. Avec un côté aussi accueillant et compatissant avec d'autres aussi.
Comme le fenouil, laissez-moi tranquille.
Alors,
voilà.
Non, moi je suis solitaire, moi.
J'aime pas les gens. Et si vous voulez, on peut aller sur la parcelle collective, il y a une partie qu'on laisse justement... sous les arbres, une partie ombragée. Allez, et en plus, on sera à l'abri.
Et en plus, on sera à l'abri.
Allez-y.
C'est sous la pluie battante que nous avons continué la visite des jardins familiaux, direction la fameuse parcelle collective.
Parfait. Voilà, parce que là, du coup, c'est la parcelle collective. Voilà, en fait, c'est une grande parcelle sur laquelle on accueille des partenaires avec qui on travaille. Donc, ça peut être des écoles, ça peut être des IME, des instituts médico-éducatifs. Diverses associations en fait, hein. Et en cours d'année, ils viennent pour participer à des ateliers que nous on propose, et on s'adapte au programme scolaire, donc c'est vu avec les professeurs. Si jamais ils veulent qu'on parle des aromatiques, et on fait un atelier sur les aromatiques, voilà. On peut parler, moi j'aime bien parler de l'importance du rôle des insectes, c'est vraiment primordial. Et les enfants, ils ont tous cette appréhension par rapport aux insectes. Donc en général, on passe par cet atelier-là aussi. On a un hôtel insectes là sur le côté. Et en général, je les amène devant l'hôtel insectes. Et on fait des observations. Et par exemple, là, il y a des petites tiges bambou.
C'est pourquoi alors, à chaque fois, expliquez-moi.
Ouais, en fait, si vous voulez, les osmies, c'est des abeilles solitaires. Et elles sont très importantes pour la pollinisation, puisqu'elles vont de fleur en fleur. Et là, dans l'hôtel à insectes, chaque tige de bambou était creuse, hein, comme n'importe quel bambou. Et c'est elles qui les ont bouchées, en fait. Et elles y mettent leurs larves. Et quand les larves... sont devenues des adultes, des osmies adultes, elles sortent et après elles partent faire leur vie et polliniser nos plantations. Donc c'est important d'avoir un hôtel à insectes. Après, les coccinelles aiment bien se nicher un petit peu aussi là, dans les petites pommes de pin. Donc
là, c'est aussi un accès à...
C'est ça. Et puis en plus, on travaille avec les écoles du quartier qui viennent à pied, hein, parce qu'ils sont vraiment pas très loin. Et ça permet à ces enfants qui habitent du coup le quartier, quartier médiathèque et même d'autres quartiers en fait, de venir dans un petit endroit où il y a un petit bout de nature. Donc c'est chouette pour eux de profiter de tout ça. Puis on a des ateliers où justement on apprend à faire des semis, donc on observe les graines. C'est aussi le moment de voir comment la graine va germer. C'est quoi une racine, c'est quoi une tige, de le voir concrètement en fait.
Ces ateliers sont l'un des piliers des jardins. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Sarah. Elle vient de commencer son service civique aux jardins familiaux.
Donc on s'est abrité sous le préau parce qu'il pleut beaucoup, comme vous pouvez l'entendre. Et je suis avec Sarah qui est en service civique ici. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bon alors, pourquoi tu fais un service civique ici? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais ici?
Alors... C'est par rapport à mon projet futur, j'aimerais bien travailler en termes pédagogiques, donc tout ce qui est nature, plantes, animaux, etc. Et j'aimerais faire des parcelles de jardin, pour que c'est thérapeutique, ça marche très bien avec les personnes qui sont en situation de handicap ou en détresse émotionnelle ou des choses comme ça, d'être en contact avec les plantes. Donc du coup, j'ai vu cette offre. Donc je me suis dit, ça va mettre un petit pied à l'étrier, je vais voir comment ça fonctionne, les ateliers qu'ils proposent, et apporter mon aide, et voir des idées, si j'ai des idées aussi avec.
Ce partage des savoirs, c'est aussi une constante des jardins. Sous une sorte de préau, près de l'entrée, on retrouve une bibliothèque et une grénothèque partagées.
Et comme ça, les gens peuvent venir pour,
récupérer des livres et puis éventuellement en poser. Et pareil pour les graines, les bulbes, ils peuvent en poser, en récupérer. C'est des échanges en fait.
C'est des échanges. C'est depuis le début ça aussi ou c'est quelque chose de récent?
Non, ça fait quelques années déjà. Je pense que ça fait bien 5 ans que ça en place.
D'accord. Et tout le monde participe ou il y a une... Comment dire, un système
Oui, tout le monde participe, mais bon, plus ou moins, c'est pas... Au total, il y a 38 parcelles. Il n'y a peut-être pas 38 personnes qui participent, mais suffisamment pour que ça puisse tourner, en fait. Il y a une grainothèque aussi, à la Mémo. Je crois que c'est au deuxième étage. Il y a une partie grainothèque, un super beau petit meuble avec plein de petits tiroirs. Il y a un petit casier avec des petites enveloppes. Et en fait, là aussi, vous pouvez déposer vos graines et vous pouvez en récupérer.
Sous ce même préau, j'ai brièvement rencontré Nabil, un jardinier qui a repris la parcelle de son père.
Est-ce que les tomates...
CFM.
Et vous, comment vous êtes jardinier?
Oui, moi, je suis jardinier.
Comment vous vous appelez?
Moi, je m'appelle Nabil.
Enchanté.
Merci. Merci.
Ça fait longtemps que vous êtes jardinier ici?
Ben, ça veut dire, ça fait... Il y a mon père, il est ici, là, depuis... Il a tenu quand même les jardins depuis 5 ans. Et après, mon père, il est décédé. C'est moi qui tiens le jardin.
Vous avez repris le jardin.
Ouais.
Et comment ça se passe? Ça pousse bien?
Ça se pousse bien, moins plus. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il nous manque des choses. Il manque de la terre, il manque beaucoup de choses.
La terre n'est pas très bonne.
Il n'est pas si riche.
Vous plantez quoi, par exemple, vous?
Ah, moi, je plante un peu de tout. Je plante du persil, de l'ail, de l'oignon, du courgette. Je plante un peu de tout.
Et c'est bon? Enfin, c'est des bons légumes, c'est des bonnes choses après, derrière, ça a vraiment...
C'est mieux que les magasins. Ah, ça c'est sûr.
Que les légumes du supermarché.
C'est sûr.
Vous aimez ça, vous jardinez?
Mes grands-parents, ils sont tous des agriculteurs. Non, on a été vécu par la terre.
Ouais.
On n'était pas comme des gens qui mangent des hamburgers.
Allez-y.
Alors, comment cet endroit est-il né? Gaëlle Ravert nous explique.
Où sont situés les jardins familiaux à Montauban?
Alors, ils sont situés dans le quartier de la médiathèque, pas très loin de la Mémo, dans une petite impasse cachée. D'ailleurs, il n'y a pas de panneau pour les indiquer. Mais ils ne sont pas très loin, alors pour vous donner un petit indice, ils ne sont pas très loin du centre social du Grand Montauban, l'antenne quartier médiathèque, est plus connue sous le nom de La Comète.
Ça a l'air d'être assez important, cette idée de lien social et de créer du lien social entre les personnes qui ne sont pas juste là pour jardiner et faire pousser leurs légumes. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans les jardins. Le fait qu'il y ait des zones de rencontre et que ce soit pour des tuyaux sur le jardinage ou juste des conversations comme ça à bâton en pied entre personnes.
Mais c'est vrai que lors de la rénovation urbaine du quartier, l'objectif de ces jardins familiaux, c'était aussi ça, hein, créer du lien social, des lieux de rencontre, d'échange, de trucs et astuces. Et c'est vrai que nous, on accompagne un petit peu tout ça dans le cadre des jardins familiaux, même si ça se fait naturellement de toute manière. Mais par exemple, chaque année, il y a le repas des jardiniers qui est organisé. Nous, on est juste là pour impulser un petit peu, ils s'organisent en fait entre eux et ils organisent le repas des jardiniers. Ils y invitent leur famille, c'est convivial. Après, il y avait d'autres activités, mais qui n'ont rien à voir avec le potager, qu'on a impulsé aussi sur certaines années, des rencontres pétanques, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, à l'entrée des jardins, il y a une petite zone en gravier propice pour des petits concours de pétanque. Donc, là aussi, on n'est pas dans le potager, on n'est pas dans le jardinage, mais on est dans le lien. Et c'est tout aussi important parce qu'il y a des gens qui viennent chercher aussi le contact, la discussion. Après, il y a aussi des sorties. On avait organisé des sorties pour visiter d'autres jardins familiaux ou des jardins partagés. Il y a aussi la sortie à Lozère à l'occasion de la fête de l'arbre et du bois. En général, on organise un transport et puis les gens peuvent s'inscrire sur cette sortie. Et elle est ouverte aussi aux adhérents du centre social. C'est une sortie groupée, en fait, sortie famille, sortie jardinier.
Et cette vocation, justement, du respect de l'équilibre de la nature et du cycle des animaux aussi, parmi les plantes et des couples de plantes qui s'aiment bien, enfin, toutes ces choses. Et le bio aussi, et le fait de faire du compost. Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis le début des jardins familiaux? Est-ce que ça a été toujours un désir de garder cette idée-là.
Oui, oui, ça faisait partie du projet dès le début au niveau des jardins. Hein. Pas d'utilisation de produits chimiques. Ça, c'était déjà dans le règlement intérieur, dans la convention. On prévient les gens quand ils veulent une parcelle aux jardins familiaux qui sont gérés par le Grand Montauban. C'est vraiment la priorité, c'est on n'utilise pas de produits chimiques. Donc ça, on prévient vraiment les gens dès le départ. Et après, toute cette sensibilisation s'est mise en place au fur et à mesure. Je crois que les premiers ateliers jardiniers bien, jardiniers bio, ont lieu en 2014, si je ne me trompe pas. Mais ça fait quelques années que ça existe.
Oui, les ateliers à venir, alors.
Voilà, donc du coup, les ateliers pour l'année 2020, il va y en avoir 4 et c'est un par mois. Donc, il y en a un le mardi 29 septembre. Celui-là, c'est lutter de façon écologique contre les maladies et les ravageurs. Donc lui, il a lieu donc, au centre social, quartier de la médiathèque, c'est l'après-midi, de 14h à 17h. Le jeudi 8 octobre, il y a apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles. Donc là, c'est sur toute une journée, avec un rendez-vous donc, au centre social, mais à Beau-Soleil. Et on part à Keylus. Pour récolter les plantes sauvages comestibles. Et puis, on va aller dans la cuisine pédagogique du centre social pour cuisiner tout ce qu'on aura récolté et puis les manger ensemble. Le mardi 24 novembre, c'est la taille des arbres et des arbustes. Donc c'est au centre social quartier médiathèque, donc à la Comète, et c'est l'après-midi. Et le mardi 15 décembre, c'est toute la journée de 9h à 17h au centre social quartier de la médiathèque. Et là, c'est savoir composter chez soi, fabriquer son propre lombricomposteur. Donc là, on va fabriquer chacun son lombricomposteur. Et donc, on fournira aussi les verres pour que dès que vous rentrez chez vous, vous allez pouvoir commencer à faire du compost.
L'un des autres piliers des jardins familiaux, c'est la location des parcelles. La situation géographique des jardins ne leur permet pas de s'étendre davantage. Alors comment obtenir une parcelle quand on est intéressé?
Voilà. Et les familles qui souhaitent avoir une parcelle, c'est simple en fait. Il suffit de me contacter au centre social, car mon bureau est au centre social. Et on remplit ensemble le dossier de demande de parcelle. Et puis je demande quelques pièces justificatives. Et puis après... par contre, il faut attendre qu'une parcelle se libère. Je peux pas organiser un comité d'attribution des parcelles si on n'a pas de parcelle de libre. Et c'est vrai que des fois, il y a un petit peu d'attente. Mais j'essaye de satisfaire tout le monde. Des fois, ça m'arrive de proposer une parcelle pour deux familles et faire une colocation en attendant qu'une autre parcelle se libère. Voilà.
Et c'est Monique Verdier, la jardinière passionnée, qui aura le parfait mot de la fin.
Moi, je trouve que le jardin, c'est vraiment magique. Vous plantez une petite graine et hop, ça vous pousse. Non, mais c'est vrai, les tomates, c'est minuscule. C'est de l'ordre du millimètre. Et ça vous fait des plantes énormes avec des fruits savoureux. C'est extraordinaire. Hein. Et on fait ce qu'on veut. Enfin... C'est un peu un endroit privilégié où on a l'impression d'être libre. Moi, je trouve que c'est cette sensation qui est très agréable. On est libre, c'est la nature qui est la reine. Si on fait ce qu'il faut pour elle, elle nous fait des cadeaux fabuleux.
Elle nous le rend au
voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est moi, c'est pour ça que j'y reviens, quoi.
Plus d'informations sur les jardins familiaux, contactez Gaëlle Ravert au centre social du quartier médiathèque. A noter que le prochain atelier Jardiner bien, jardiner bio aura lieu le 8 octobre prochain à Keylus. Le thème sera apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles. Ces ateliers sont ouverts à tous les habitants du Grand Montauban sur inscription et sont limités à 12 participants par atelier. Ils sont proposés par les jardins familiaux en partenariat avec le service développement durable, la direction des espaces verts et naturels et le CIRTOMAN. Thank you.